de Troyes. Même décor la nuit, lampes allumées.
Scène 1. Guerchard, le duc.
Guerchard penché sous le manteau de la cheminée.
Ça va, monsieur le duc, c'est pas trop lourd ?
Le duc dans la cheminée.
Non !
Le passage est suffisant, vous tenez bien la corde ?
Oui, attention !
Guerchard fait un bond en arrière. On entend un bruit formidable dans la cheminée. C'est un bloc de marbre qui est tombé.
Oh nom d'un chien, encore un peu j'y étais. Ouf, j'ai eu chaud. Vous avez donc lâché la corde ?
C'est elle qui a lâché. Vous l'aviez mal attachée.
Il est descendu et apparaît, recouvert d'un cache-poussière qui l'enlève.
Mais vous avez raison, la piste est claire.
Mais oui, l'autre était enfantine. Les traces de pas dans le jardin, l'échelle, le guéridon sur le bord de la fenêtre. C'est une piste qui ne tenait pas debout. C'est une piste pour juge d'instruction. Nous avons perdu toute une journée.
Alors la piste vraie ?
Nous venons de la voir ensemble. Les deux hôtels, celui-ci et l'immeuble voisin, lequel est inoccupé, communiquent.
C'est une façon de parler. Ils communiquent par l'ouverture que Lupin et sa bande ont pratiquée dans le corps de la cheminée.
Oui, c'est un truc assez connu. Les vols chez les grands bijoutiers s'opèrent parfois ainsi. Mais ce qui donne au procédé un cachet assez nouveau et de prime abord déroutant, c'est que les bandits ont eu l'audace de percer à 3 mètres du foyer un orifice assez large pour pouvoir cambrioler tout un mobilier.
C'est vrai, l'orifice s'ouvre en véritable baie dans une pièce de l'immeuble voisin, au 2e étage. Ces brigands sont capables de tout, même d'un travail de maçonnerie.
Oh, tout cela a été préparé de longue main. Mais maintenant, je suivrai leurs pistes chacun de leurs pas les yeux fermés, car toutes les preuves, nous les avons. Fragments de cartes dorées, fils de tapisserie, etc. Une fois le cambriolage effectué, l'immeuble voisin étant vide, ils ont pu descendre tranquillement par l'escalier et sortir par la grande porte.
Ils sont descendus par l'escalier, vous croyez ?
Je ne crois pas, j'en suis sûr. Tenez ces fleurs, je les ai trouvées dans l'escalier. Elles sont encore fraîches.
Hein, mais j'ai cueilli des fleurs semblables hier à Charmeras. C'est du salvia.
Et du salvia rose, monsieur le duc. Je ne connais qu'un jardinier qui réussit à obtenir cette nuance. C'est le jardinier de monsieur Gournay Martin.
Mais alors les voleurs de cette nuit... Mais oui, ça ne peut être...
Allez, dites votre idée.
Les charolais.
Parbleu.
C'est vrai, c'est passionnant. Ah, si l'on pouvait avoir une preuve.
Nous l'aurons tout à l'heure.
Comment ça ?
Oui, j'ai téléphoné à Charmeras. Le jardinier était absent, mais dès son retour, il m'appellera au téléphone. Nous saurons alors qui a pénétré dans les serres.
C'est passionnant. Ces indices, ces pistes qui se croisent, chaque fait qui peu à peu reprend sa place normale. Passionnant. Une cigarette ?
C'est du caporal ?
Non, du tabac jaune, du Mercedes.
Merci.
Oui, passionnant. Alors, les voleurs venaient de Charmeras. Ce sont les charolais. Ils sont partis de l'hôtel voisin et c'est par là qu'ils sont entrés.
Ah non !
Non ?
Non, ils sont entrés par la porte de l'hôtel où nous sommes.
Mais qui leur aurait ouvert ? Un complice alors ?
Oui.
Qui ?
Boursin entre.
Fais venir Victoire, la femme de charge.
Boursin sort.
Comment, Victoire ? Le juge d'instruction l'a interrogé cet après-midi. Il semblait croire à son innocence.
Oui, comme il semblait aussi n'ajouter qu'une importance secondaire à la piste de la cheminée, celle que nous venons de vérifier ensemble. L'innocence de Victoire. Oh, monsieur le duc, il y a certainement un innocent dans tout ceci. Savez-vous qui c'est ?
Non.
Bien le juge d'instruction.
Scène 2.
Les mêmes, Victoire.
Boursin fait entrer Victoire.
On va encore me cuisiner ? Sais-tu qu'on va encore me cuisiner ?
Asseyez-vous. Vous couchez dans une mansarde dont la lucarne donne sur le toit.
À quoi ça sert tout ça ? À quoi ça sert ?
Voulez-vous me répondre ?
J'ai déjà répondu oui à un autre juge. Même que celui-là est bien conciliant. Mais vous, je sais pas ce que vous avez après moi.
Vous avez donc passé la nuit dans votre mansarde et vous n'avez entendu aucun bruit sur le toit.
Sur le toit maintenant ? V'là un malheur.
Vous n'avez rien entendu.
J'ai dit ce que j'ai dit. J'ai entendu des bruits qui n'étaient pas catholiques et qui sortaient des escaliers. Je suis entré dans ce salon et j'ai vu ce que j'ai vu.
Mais qu'avez-vous vu?
Des maraudeurs. Ils s'enfuyaient par la fenêtre avec des sacs d'objets.
Par la fenêtre?
Oui.
Pas par la cheminée?
La cheminée? Voilà encore un malheur.
Elle a l'air d'une brave femme pourtant.
Tout à l'heure, où étiez-vous placé?
Dans la cheminée, derrière l'écran.
Mais quand vous êtes entré?
Oh, l'écran n'était point là.
Montrez-moi où il était. Déplacez-le. Attendez. Alors, il ne faut pas perdre l'emplacement exact des quatre pieds. Voyons, de la craie. Vous êtes un peu couturière ici, n'est-ce pas, ma brave femme?
Oui, c'est moi qui raccommode pour les domestiques et qui m'occupe de la couturière.
Parfait, alors vous devez bien avoir sur vous un bout de craie de savon.
Ah, ça toujours!
Elle relève sa jupe, va pour fouiller dans les poches de son jupon, se ravise, effarée.
Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ah non, j'en ai point.
Vous êtes sûr? Voyons donc ça.
Il fouille dans la poche de son tablier.
Ma couvre, voilà des manières! Voulez-vous me laisser? Mais voulez-vous? Vous me chatouillez!
Guerchard trouve un morceau de craie bleue.
Enfin, ça y est. Boursin, embarque-la!
Quoi? Mais Jésus-Marie, je suis innocente! C'est pas parce qu'on a du savon, de la craie de savon, qu'on est une voleuse!
C'est entendu. Boursin, dès que la voiture cellulaire sera là, embarque-moi ça au dépôt.
Jésus-Marie! Jésus-Marie!
Bon, et d'une.
Scène 3. Le duc, Guerchard, Boursin, Bonavent.
Victoire! Je n'en reviens pas. Alors cette craie, c'était la même que sur les murs?
Oui, de la craie bleue. Voyez-vous, monsieur le duc, ça est la fleur de salvia. Oh, qu'est-ce que c'est?
C'est Bonavent qui a du nouveau.
Oh!
Bonavent entre.
Alors, qu'est-ce qu'il y a?
Voilà, patron. Trois autocamions ont stationné cette nuit devant l'hôtel voisin.
Comment le sais-tu?
Par un chiffonnier. Il a vu les camions s'éloigner vers 5 heures du matin.
Ah, ah, c'est tout?
Un homme est sorti de l'hôtel en tenue de chauffeur.
Ah. Ah!
À 20 pas de l'hôtel, il a jeté sa cigarette, le chiffonnier l'a ramassée.
Et il l'a fumée?
Non, la voici.
Une cigarette à bout d'or et comme marque Mercedes. Tiens, monsieur le duc, ce sont vos cigarettes.
Allons donc, ça c'est inouï.
Mais c'est très clair et mon argumentation se resserre. Vous aviez de ces cigarettes-là à Charmeras?
Des boîtes sur toutes les tables.
Eh bien?
C'est vrai, l'un des charolais aura pris une de ces boîtes.
D'abord, nous savons que c'est pas le scrupule qui les étouffait.
Seulement, mais j'y pense.
Quoi?
Lupin alors.
Eh bien?
Puisque c'est Lupin qui a fait le coup cette nuit, puisque l'on a trouvé ces salvias dans l'hôtel voisin, Lupin arrivait donc de Charmeras.
Évidemment.
Mais alors Lupin est un des charolais?
Oh, ça c'est autre chose.
Mais c'est certain, nous tenons la piste.
À la bonne heure, vous voilà emballé comme moi. Quel policier vous auriez fait? Seulement, rien n'est certain.
Mais si, qui voulez-vous que ce soit? Était-il hier à Charmeras, oui ou non? A-t-il, oui ou non, organisé le vol des automobiles?
Oui, sans aucun doute, mais il a pu rester dans la coulisse.
Sous quelle forme? Sous quel masque? Ah, je brûle de voir cet homme-là!
Nous le verrons ce soir.
Ce soir?
Oui, puisqu'il viendra prendre le diadème entre 12:15 et 00:00.
Non, vous croyez vraiment qu'il aura le culot?
Vous ne connaissez pas cet homme-là, monsieur le duc. Ce mélange extraordinaire d'audace et de sang-froid. C'est le danger qui l'attire. Il se jette au feu et il ne se brûle pas. Depuis 10 ans, je me dis, ça y est, cette fois je le tiens. Enfin, je vais le pincer. Je me dis ça tous les jours.
Eh bien?
Eh bien, les jours se passent et je ne le pince jamais. Oh, il est de taille, vous savez. C'est un gaillard, c'est un bel artiste. Voyou.
Alors vous pensez que ce soir, Lupin...
Monsieur le duc, vous avez suivi la piste avec moi. Nous avons ensemble relevé chaque trace. Vous avez presque vu cet homme malheur, vous l'avez compris. Ne pensez-vous pas qu'un individu pareil est capable de tout?
Si.
Alors?
Ah, peut-être. Vous avez raison.
Entrez.
Boursin lui remet un pli.
C'est de la part du juge d'instruction.
Donne. Ah.
Boursin sort.
Qu'est-ce que c'est ?
Rien, je vous dirai ça.
Irma entre.
Mademoiselle Krichnoff demande à monsieur le duc un instant d'entretien.
Ah, où est-elle ?
Dans la chambre de mademoiselle Germaine.
Bien, j'y vais.
Non.
Comment ?
Non, je vous assure.
Mais...
Attendez que je vous ai parlé.
Le duc regarde le papier que Garchard tient à la main.
Eh bien, dites à mademoiselle Krichnoff, dites que je suis dans le salon.
C'est tout, monsieur le duc ?
Oui, que je suis dans le salon, que j'en ai pour 10 minutes. Dites-lui exactement ça. Elle comprendra que je suis avec vous, et alors... Mais pourquoi ? Je ne comprends pas.
Je viens de recevoir ceci du juge d'instruction.
Eh bien ?
Eh bien, c'est un mandat d'arrêt, monsieur le duc.
Quoi, un mandat ? Pas contre elle ?
Si.
Voyons, mais ce n'est pas possible. L'arrêter.
Ben, il faut bien. L'interrogatoire a été terrible pour elle. Des réponses louches, embarrassées et contradictoires.
Alors vous allez l'arrêter ?
Certes.
Il va pour sonner.
Monsieur Garchard, elle est maintenant avec ma fiancée. Attendez au moins qu'elle soit rentrée dans sa chambre. Épargnez à l'une une émotion affreuse et à l'autre cette humiliation.
Il le faut. J'ai le mandat d'arrêt contre mademoiselle Krichnoff. Le planton est toujours en bas devant la porte.
Oui.
Dis-lui bien qu'on ne peut sortir que sur un visa de moi et sur ma carte.
Le duc, pendant ce temps, est resté visiblement pensif.
Enfin, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter.
Dame, vous comprenez, n'est-ce pas ? Vous croyez que personnellement, je n'ai contre mademoiselle Krichnoff aucune animosité. Elle me serait presque sympathique, cette petite.
N'est-ce pas ? Elle a l'air si perdue, si désemparée. Et cette pauvre cachette qu'elle a trouvée. Ce mouchoir roulé, jeté dans la petite pièce de l'immeuble voisin. Quelle absurdité.
Vous dites mouchoir ?
La maladresse de cette petite est désarmante.
Un mouchoir contenant les perles du pendentif ?
Oui, vous avez vu, n'est-ce pas, au 3e étage. C'est fou.
Mais non, je ne l'ai pas vu.
Comment non ? Ah, c'est vrai ! C'est le juge d'instruction qui a vu.
Il a vu un mouchoir appartenant à mademoiselle Krichnoff ? Mais où est-il, ce mouchoir ?
Le juge d'instruction a pris les perles, mais le mouchoir doit être resté là-haut.
Comment ? Il ne l'a pas pris ? Non, mais quel... Enfin...
Il enlève son paletot, va vers la cheminée et allume la lanterne.
Oh, d'ailleurs, maintenant que vous arrêtez mademoiselle Krichnoff, ce détail n'a plus d'importance.
Mais si, je vous demande pardon.
Comment ?
Ben, nous arrêtons mademoiselle Krichnoff, nous avons des présomptions, mais aucune preuve.
Hein ?
Mais la preuve, vous venez de nous la fournir. Puisqu'elle a pu cacher les perles dans l'immeuble voisin, c'est qu'elle connaissait le chemin qui y mène. Donc elle est complice.
Comment vous croyez ? Ah mon Dieu ! Et c'est moi, j'aurais eu l'imprudence. C'est par ma faute que vous découvrez.
Cette lanterne, voulez-vous m'éclairer, monsieur le duc ?
Mais vous ne voulez pas que j'y aille ? Je sais où est le mouchoir.
Non, non, je préfère y aller moi-même.
C'est que si vous aviez voulu...
Non, 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 non.
Permettez-moi d'insister.
Inutile. À bout de bras, n'est-ce pas ?
Oui.
5 minutes seulement, ça vous fatiguera pas.
Non, non.
Garchard disparaît sous la cheminée. Le duc, au bout d'un instant, accroche la lanterne dans l'intérieur de la cheminée.
Ça va comme ça ?
Oui, c'est ça, c'est très bien.
Le duc se précipite vers la porte de droite et l'ouvre. Sonia paraît, habillée pour sortir.
Vite.
Le duc retourne prendre la lanterne.
Mon Dieu !
Il y a un mandat d'arrêt contre vous.
Je suis perdu !
Non, vous allez partir.
Mais comment ? Garchard ?
Écoutez, je vous téléphonerai demain matin à...
Monsieur le duc !
Mon Dieu !
Chut !
Vous pourriez pas enlever la lanterne un peu plus haut ?
Attendez, je vais essayer. Ah non, je ne peux pas.
Bon alors, un peu plus à droite.
Le duc, d'un geste impérieux, fait signe à Sonia de venir prendre la lanterne. Tandis qu'elle la tient, il prend vivement le portefeuille de Garchard dans le paletot, en tire une carte, écrit quelques mots... et retourne à la cheminée. Sonia suit ses mouvements avec une stupeur craintive.
Ça va comme ça ?
Oui, très bien.
Vous remettrez cette carte au planton de garde.
Comment ? Mais c'est...
Partez !
Mon Dieu, mais c'est fou ! Quand Garchard découvrira !
Ne vous inquiétez pas de ça. Ah, dans le cas où il arriverait quelque chose. À 8h30, demain matin, oui, c'est ça. Attendez.
Vous voyez assez clair ?
Il est dans l'hôtel à côté. À 8h30, puis-je vous téléphoner ?
Oui, c'est un petit hôtel près de l'étoile. Mais cette carte, je ne peux pas. Pour vous-même.
L'hôtel a le téléphone.
Oui, 555-14.
Le duc inscrit le numéro sur sa manchette.
Si je ne vous avais pas téléphoné à 8h30, venez directement chez moi.
Bien, mais quand Garchard saura, si jamais Garchard découvre...
Partez, Sonia, partez, partez.
Oh, comme vous êtes bon.
Il la pousse vers la porte, et sur le seuil de la porte, il se regarde, hésite. Il l'attire dans ses bras, elle s'y laisse tomber, il s'embrasse. On entend la voix de Garchard, le duc se dégage.
Pars maintenant, je t'adore, pars, pars.
Scène 4. Garchard, le duc, Boursin, Germaine, Gournay-Martin.
Resté seul, le duc retourne en courant vers la cheminée et saisit la lanterne. À ce moment, on entend le bruit sourd d'une porte qui se ferme. Il s'appuie avec émotion contre le manteau de la cheminée. Garchard regarde le duc d'un air goguenard et avec un étonnement soupçonneux.
« Mais rien, eh bien je n'y comprends rien, je n'ai rien trouvé. »«
Vous n'avez rien trouvé ?»«
Non. Vous êtes sûr d'avoir vu le mouchoir dans la petite pièce du troisième étage ?»«
Certain. Vous n'avez pas vu de mouchoir ?»«
Non. »«
Vous n'avez pas bien cherché. À votre place, je retournerai voir. »
Non, mais tout de même, c'est assez drôle. Vous ne trouvez pas ça drôle?
Si, je trouve ça drôle.
Garchard fait quelques pas, puis il sonne. Boursin entre.
Boursin, mademoiselle Krichnoff, il est temps.
Mademoiselle Krichnoff?
Oui, il est temps qu'on l'emmène.
Mais mademoiselle Krichnoff est partie, patron.
Partie? Comment partie?
Mais oui, patron.
Voyons, voyons, tu es fou.
Non, patron.
Parti, mais qui l'a laissé partir, qui?
Mais le planton de garde.
Quoi, quoi, le planton de garde?
Mais...
Il fallait mon visa sur ma carte.
La voilà, votre carte, et voilà le visa.
Hein? Un faux? Oh, ça!
Il cherche à comprendre où il entrevoit la complicité du duc dans cette évasion. Boursin sort. Garchard va vers son paletot, en tire un portefeuille, compte les cartes, s'aperçoit qu'il en manque une. Le duc est près de lui, séparé de lui par l'écran, les mains sur cet écran et se balançant. Garchard lève la tête, il se regarde en souriant. Garchard met son paletot, le duc lui propose de l'aider, ce qu'il refuse. Puis il sonne de nouveau.
Boursin, Victoire a bien été embarquée dans la voiture cellulaire, n'est-ce pas ?
Il y a belle lurette, patron. La voiture attendait dans la cour depuis 9h30.
9h30 ? Mais la voiture ne devait arriver que maintenant, à 10h30. Enfin, c'est bien.
Alors, on peut renvoyer l'autre voiture ?
Quelle autre voiture ?
La voiture cellulaire qui vient d'arriver.
Quoi ? Qu'est-ce que tu me chantes ?
Vous n'aviez pas commandé deux voitures cellulaires ?
Deux voitures ? Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ?
Mais si, patron.
Tonnerre, mais dans quelle voiture a-t-on installé Victoire ? Dans laquelle ?
Dame, dans la première, patron.
Tu as vu les agents, le cocher ? Tu les connaissais ? Tu les as reconnus ?
Non.
Non ?
Non, ça devait être des nouveaux. Ils m'ont dit qu'ils venaient de la santé.
Bougon idiot, mais c'est toi qui en as une santé.
Et comment alors ?
Mais nous sommes roulés, c'est un tour de... Oh, c'est un tour de...
De Lupin, vous croyez ? Oh !
Ma mère, mais... Eh bien, quand tu resteras la bouche ouverte, quand tu resteras là, allez, fouille la chambre de Victoire.
Et bon avant la fouiller, patron.
Ah, eh bien, où est-il ? Qu'il entre.
Et bon avant.
Tu as fouillé les malles de Victoire ?
Oui, rien que du linge, des vêtements. Sauf ça.
Donne. Un livre de messe, c'est tout?
Il y a une photographie dedans.
Ah, une photographie de Victoire. Presque effacée. Une date. Il y a 10 ans. Tiens, quel est ce garçon qu'elle tient par le cou? Ah, ça, ah, ça.
Assailli de pensée, il regarde la photo, l'éloigne, la rapproche, regarde de côté, vers le duc, sans toutefois fixer ses yeux sur lui. Le duc est toujours près de la cheminée. Il se dresse sur la pointe des pieds pour voir la photo. Se sentant découvert, il cherche un instant des yeux avec une certaine anxiété par où il pourrait s'enfuir le cas échéant. Guerchard se rapproche et le regarde en se frottant les mains.
Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose qui ne va pas? Ma cravate?
Guerchard continue de le regarder sans répondre. Le duc fait mine d'y aller.
Non, je vous en prie. Allô, oui, c'est moi, l'inspecteur principal de la sûreté. Le jardinier de Charmeras, monsieur le duc.
Ah, vraiment?
Allô, oui, vous m'entendez bien? Bon. Je voudrais savoir qui a pénétré hier dans la serre. Qui a pu cueillir du salvia rose?
C'est moi, je vous l'ai dit tout à l'heure.
Oui, je sais. Hier après-midi, oui, personne d'autre. Ah, personne, sauf le duc de Charmeras. Vous êtes bien sûr, tout à fait sûr. Bon, oui, c'est tout, merci. Vous avez entendu, monsieur le duc?
Oui.
Gournay Martin entre, sa valise à la main.
Tu veux aller au Ritz? Allons au Ritz.
Qu'est-ce que vous voulez? Il était dit que je ne coucherai plus jamais chez moi.
Vous partez? Qu'est-ce qui vous oblige à partir?
Le danger. Vous n'avez donc pas lu le télégramme de Lupin? Viendrait ce soir entre 00h15 et 00h prendre le diadème. Et vous croyez que j'allais l'attendre quand le diadème était dans ma chambre à coucher?
Mais il n'y est plus. Vous avez eu la bonté de me le confier et nous l'avons changé de place ensemble.
Oui, et même, je l'ai repris. Je l'ai là, dans ma valise. Je l'emporte avec moi.
Hein?
Quoi?
Vous trouvez ça prudent?
Quoi?
Si Lupin est décidé à s'emparer du diadème, même par la force, vous risquez gros.
Ah, c'est vrai, je n'avais pas pensé à cela. Alors, que faire?
Il faut se méfier.
De tout le monde, comme c'est vrai.
À Guerchard, qui s'avance.
Dites-moi... un instant. Dites-moi, vous avez confiance en Guerchard?
En Guerchard.
Vous croyez qu'on peut avoir en lui pleine confiance?
Oui, je crois.
Eh bien, alors je vais lui confier le diadème. Tenez, il est beau, n'est-ce pas?
Le duc tient le coffret ouvert.
Ah, merveilleux!
Monsieur Guerchard, il y a du danger. Alors je vous confie le diadème, ça ne vous ennuie pas?
Au contraire, c'est précisément ce que je voulais vous demander.
Le duc lui tend le diadème très lentement. Tous deux ont les bras tendus et tiennent le coffret en même temps.
Il est beau, n'est-ce pas?
Le duc abandonne le coffret.
Oh, merveilleux!
Jacques, s'il y avait du nouveau, je suis au Ritz.
Il continue à causer avec lui.
Vous connaissez cette photographie du duc, mademoiselle? Elle date de 10 ans.
Elle date de 10 ans? Eh bien, ce n'est pas le duc.
Quoi?
Comment?
Rien, pourtant, elle ressemble...
Au duc tel qu'il est, oui, un peu. Mais pas au duc tel qu'il était. Il a tellement changé.
Ah?
Le voyage, la maladie... Vous savez qu'il l'a passé pour mort. Oui, c'est même ce qui inquiétait papa quand il est parti. Maintenant, il va très bien.
Vous partez aussi, monsieur le duc?
Oui, vous n'avez plus besoin de moi.
Eh si!
C'est que j'ai affaire.
Vous avez peur?
Ah, monsieur Guerchard, vous avez trouvé le moyen de me faire rester.
Oui, restez, vous n'êtes pas trop de deux. Au revoir et merci. Mais quand pourrais-je enfin coucher chez moi?
Vous ne venez pas?
Non, je reste avec monsieur Guerchard.
Eh bien, vous serez frais demain pour aller à l'opéra. Déjà, vous n'avez pas dormi cette nuit.
Guerchard tressaille.
partir à 8h du soir de Bretagne pour arriver à 6h du matin en automobile.
En automobile ?
Mais je vous préviens, malade ou non, vous m'accompagnerez à l'opéra. Je veux voir Faust. C'est le jour chic.
Ils sortent. Scène 5. Le duc, Guerchard, Boursin.
En automobile, mais voilà, tout s'explique, mais oui, voilà.
Il pose sur la table le coffret dans lequel se trouve le diadème. Le duc revient en scène.
Je ne savais pas, monsieur le duc, que vous aviez eu cette nuit une panne en automobile. Si j'avais su, je me serais fait un scrupule.
Une panne ?
Oui, parti à 8h hier soir, vous êtes n'arrivé à Paris qu'à 6h du matin. Vous n'avez donc pas une forte machine ?
Si, une 100 chevaux.
Bigre, vous avez dû avoir une sacrée panne.
Oui, une bonne panne de 3 heures.
Et personne ne se trouvait là pour vous aider à la réparer ?
Madame, non, il était 2h du matin.
Oui, il n'y avait personne.
Personne ?
C'est fâcheux.
Très fâcheux. J'ai dû réparer l'accident moi-même. C'est ce que vous vouliez dire, n'est-ce pas ?
Oui, certainement.
Une cigarette ? Ah non, je sais que vous ne fumez que du caporal.
Si, si, tout de même.
Il prend une cigarette et le regarde.
C'est égal, tout ça est bien curieux.
Quoi ?
Bien tout, vos cigarettes, ces fleurs de salvia, la petite photo qu'on m'a remise, cet homme en tenue de chauffeur, et enfin, votre panne.
Ah ça, monsieur, vous êtes ivre.
Il va prendre son pardessus. Guerchard se lève et lui barre le chemin.
Non, 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 ne sortez pas.
Vous dites ? Ah ça, que dites-vous ?
Non, oh, je vous demande pardon, oui, je suis fou, je suis fou.
En effet.
Aidez-moi, voilà ce que je veux dire. Aidez-moi. Il faut que vous restiez ici, pour m'aider contre Lupin. Vous comprenez ? Vous voulez bien ?
Cela volontiers. Mais vous n'avez pas l'esprit bien calme. Vous êtes inquiétant.
Encore une fois, excusez-moi.
Soit. Mais qu'allons-nous faire ?
Eh bien, le diadème est là. Il est dans ce coffre.
Je sais bien qu'il y est, puisque je l'ai changé de place cet après-midi. Monsieur Gournay-Martin m'en avait prié.
Oui, enfin, vous voyez, il y est.
Oui, oui, je vois, alors.
Alors, nous allons attendre.
Qui ?
Lupin.
Lupin ? Alors décidément, comme dans les contes de fées, vous croyez que lorsque cette horloge aura sonné 12 coups, Lupin entrera et prendra le diadème ?
Oh oui, je le crois.
C'est palpitant.
Ça ne vous ennuie pas ?
Au contraire, faire la connaissance de l'invisible gaillard qui vous roule depuis 10 ans, c'est une soirée charmante.
À qui le dites-vous ?
À vous. On vient là.
Oh non ?
Si, tenez, on frappe.
C'est vrai. Oh, vous avez l'oreille encore plus fine que moi. D'ailleurs, vous avez montré en tout ceci les qualités de véritable policier.
Guerchard, sans quitter le duc des yeux, va ouvrir la porte.
Entre, Boursin. Tu as les menottes ?
Boursin lui remet les menottes.
Oui, faut-il que je reste ?
Non, non, il y a nos hommes dans la cour.
Oui.
Et l'hôtel voisin ?
Plus de communication possible. Tout est gardé.
Mais si quelqu'un essaye d'entrer, n'importe qui, qu'on empoigne. Au besoin, qu'on tire dessus.
Fichtre, vous êtes ici dans une forteresse.
Monsieur le duc, c'est plus vrai encore que vous ne pensez. J'ai des hommes à moi derrière chacune de ces portes.
Ah.
Cela paraît vous ennuyer ?
Beaucoup, sapristi. Mais alors jamais Lupin ne pourra pénétrer dans cette pièce.
Ah, difficilement. À moins qu'il ne tombe du plafond, ou à moins...
À moins qu'Arsène Lupin ne soit vous.
En ce cas, vous en seriez un autre.
Elle est bonne. Eh bien, sur ce, je m'en vais.
Hein ?
Dame, je restais pour voir Lupin, du moment qu'il n'y a plus moyen de le voir.
Mais si, restez donc.
Ah, vous y tenez ?
Nous le verrons.
Bon.
Il est déjà ici.
Lupin ?
Lupin ?
Où ça ?
Dans la maison.
Déguisé, alors ?
Oui.
Un de vos agents, peut-être ?
Oh non, je ne crois pas.
Alors s'il est déjà ici, nous le tenons. Il va venir.
J'espère, mais osera-t-il ?
Comment ?
Dame, vous l'avez dit vous-même, c'est une forteresse. Lupin était peut-être décidé à entrer dans cette pièce il y a une heure, mais maintenant...
Eh bien ?
Eh bien maintenant, c'est qu'il faudrait un rude courage, vous savez. Il faudrait risquer le tout pour le tout et jeter bas le masque. Lupin ira-t-il se jeter dans la gueule du loup ? Oh, je n'ose pas y croire. Votre avis ?
Dame, vous devez être plus au courant que moi. Vous le connaissez depuis 10 ans, vous. Tout au moins, de réputation.
Oui, je connais aussi sa manière d'agir. Depuis 10 ans, j'ai appris à démêler ses intrigues, ses manœuvres. Oh, son système est habile. Il attaque l'adversaire. Il le trouble. Tout au moins, il essaye. C'est un ensemble de combinaisons enchevêtrées et mystérieuses. Moi-même, j'y ai été pris souvent. Vous souriez ?
Ça me passionne.
Et moi aussi, mais cette fois, j'y vois plus clair. Plus de ruses, plus de sentiers dérobés. C'est au grand jour que nous combattons. Lupin a peut-être du courage, il n'a que le courage des voleurs.
Oh !
Mais oui, les gredins n'ont jamais beaucoup de vertus.
On ne peut pas tout avoir.
Leurs embûches, leurs attaques, leurs belles tactiques, tout cela c'est bien court.
Vous allez un peu loin.
Mais non, monsieur le duc, croyez-moi. Il est très surfin, ce vame Lupin.
Pourtant, il a fait des choses qui ne sont pas trop mal.
Oh !
Si, il faut être juste. Ainsi, le cambriolage de cette nuit, ce n'est pas inouï, mais enfin, ce n'est pas mal. Ce n'est pas si bête, l'escroquerie des automobiles. Ce n'est pas mal dans une seule semaine. Un vol à l'ambassade d'Angleterre, un autre au ministère des Finances et le troisième chez Monsieur Lépine.
Oui.
Et puis, rappelez-vous le jour où il s'est fait passer pour Guerchard. Allons, voyons, entre nous, sans parti pris, ce n'est pas mal.
Non, mais il a fait mieux récemment. Pourquoi ne parlez-vous pas de ça ?
Ah, de quoi ?
Du jour où il s'est fait passer pour le duc de Charmeras.
Il a fait ça ? Oh, le bougre ! Mais vous savez, je suis comme vous, moi. Je suis si facile à imiter.
Pourtant, monsieur le duc, ce qui était amusant, c'était d'arriver jusqu'au mariage.
Oh, s'il le voulait. Mais vous savez, pour Lupin, la vie d'un homme marié...
Une grande fortune, une jolie fille...
Il doit en aimer une autre.
Mais une voleuse, peut-être.
Qui se ressemble. Et puis, voulez-vous mon avis ? Sa fiancée doit l'embêter.
C'est navrant, pitoyable, avouez-le, que la veille du mariage, il ait été assez bête pour se démasquer. Et au fond, hein, ça c'est logique. Lupin perd sang sous Charmeras, il a commencé par prendre la dot au risque de ne plus avoir la fille.
C'est peut-être ce qu'on appellera le mariage de raison.
Mais quelle chute ! Être attendu à l'opéra demain soir dans une loge et passer cette soirée-là au dépôt. Avoir voulu, dans un mois, comme duc de Charmeras, monter en grande pompe les marches de la Madeleine et dégringoler les escaliers du beau-père, ce soir. Oui, ce soir, le cabriolet de fer au poignet. Hein, et ça c'est la revanche de Guerchard, de cette vieille ganache de Guerchard. Le Brumel des voleurs en bonnet de prison, le gentleman cambrioleur, sous les verrous. Pour Lupin, ce n'est qu'un petit ennui, mais pour un duc, c'est un désastre. Allons, voyons à votre tour, sans parti pris. Vous trouvez pas ça amusant ?
Le duc, qui est assis devant lui, relève la tête.
T'as fini ?
Hein ?
Ils se dressent l'un devant l'autre.
Moi, je trouve ça amusant.
Et moi, donc ?
Non, toi, tu as peur.
Peur ?
Oui, tu as peur. Et si je te tutoie, gendarme ? Ne crois pas que je jette un masque, je n'en porte pas. Je n'ai rien à démasquer, je suis le duc de Charmeras.
Tu mens, tu t'es évadé il y a 10 ans dans la santé. Tu es Lupin, oh, je te reconnais maintenant.
Prouve-le.
Oui.
Je suis le duc de Charmeras.
Ha ha.
Ne ris donc pas, tu n'en sais rien.
On se tutoie pourtant.
Qu'est-ce que je risque ? Peux-tu m'arrêter ? Tu peux arrêter Lupin, mais arrête donc le duc de Charmeras. Honnête homme, dandy à la mode, membre du jockey et de l'Union, demeurant en son hôtel 34 bis rue de l'Université. Arrête donc le duc de Charmeras, fiancé à mademoiselle Gournay-Martin.
Misérable !
Eh bien, vas-y, sois ridicule, fais-toi fiche de toi par tout Paris. Fais-les entrer, tes flics. As-tu une preuve, une seule ? Non, pas une.
Oh, j'en aurai.
Je crois. Tu pourrais m'arrêter dans 8 jours, après-demain peut-être. Peut-être jamais. Mais pas ce soir, c'est certain.
Ah, si quelqu'un pouvait t'entendre.
Ne te frappe pas, ça ne prouverait rien. D'abord, le juge d'instruction te l'a dit. Quand il s'agit de Lupin, tu perds la boule. Tiens, le juge d'instruction, voilà un garçon intelligent.
En tout cas, le diadème, ce soir...
Attends, mon vieux, attends. Sais-tu ce qu'il y a derrière cette porte?
Hein?
Froussard va.
Non, non, non.
Je te dis que tu vas être pitoyable.
Cause toujours.
Pitoyable. De minute en minute et à mesure que l'aiguille se rapprochera de minuit, tu seras épouvanté. Attention!
Quoi?
Ce que tu as la trouille.
Cabot.
Oh, tu n'es pas plus lâche qu'un autre. Mais qui peut supporter l'angoisse de ce qui va survenir et qu'on ne connaît pas? J'ai raison, tu le sens, tu en es sûr. Il y a au bout de ces minutes comptées un événement fatal, implacable. N'ose pas les épaules, tu es vert.
Mais mes hommes sont là, je suis armé.
Enfant, mais souviens-toi que c'est toujours quand tu avais tout prévu, tout combiné, tout machiné. Souviens-toi que c'est alors que l'accident jetait bas tout ton échafaudage. Rappelle-toi que c'est toujours au moment où tu vas triompher qu'il te bat, et il ne te laisse atteindre le sommet de l'échelle que pour mieux te flanquer par terre.
Mais avoue-le donc, tu es Lupin.
Je croyais que tu en étais sûr.
Guerchard tire ses menottes.
Oh, je ne sais pas ce qui me retient, mon petit.
Assez, n'est-ce pas?
Hein?
En voilà assez. Je veux bien jouer à ce qu'on se tutoie tous les deux, mais ne m'appelez pas votre petit.
Va, va, tu m'en imposeras plus longtemps.
Si je suis Lupin, arrêtez-moi.
Dans 3 minutes. Ou alors, c'est qu'on n'aura pas touché au diadème.
Dans 3 minutes, on aura volé le diadème et vous ne m'arrêterez pas.
Ah, je jure bien, je jure.
Ne fais pas de serments imprudents. Plus que 2 minutes.
Il tire son revolver.
Hein? Ah, mais non!
Il prend aussi son revolver.
Voyons, vous ne m'avez pas recommandé de tirer sur Lupin?
Eh bien?
Eh bien, j'apprête mon revolver puisqu'il va venir. Plus qu'une minute.
Guerchard va vers la porte.
Bon, nous sommes en nombre.
Ah, poule mouillée.
Eh bien non, moi tout seul.
Imprudent.
Au moindre geste que vous ferez, au moindre mouvement, je fais feu.
Je m'appelle le duc de Charmeras. Vous serez arrêté le lendemain.
Je m'en fous.
Plus que 50 secondes.
Oui.
Dans 50 secondes, le diadème sera volé.
Non.
Si.
Non, non, non.
La pendule se met à sonner, il se mesure du regard. 2 fois, le duc esquisse un mouvement. Guerchard, à chaque fois, se précipite. Au 2e coup, ils s'élancent tous 2. Le duc prend son chapeau qui est à côté du diadème, et Guerchard saisit le diadème.
Ah, je l'ai enfin. Ai-je gagné? Suis-je roulé cette fois-ci? Lupin a-t-il pris le diadème?
Le duc met son paletot.
J'aurais bien cru. Mais es-tu bien sûr?
Hein?
Tiens, rien qu'au poids. Il ne te semble pas un peu léger?
Quoi?
Celui-là est faux.
Tonnerre de Dieu!
Le duc entr'ouvre son paletot qui cache le diadème.
Celui-là est vrai. On a volé le diadème!
Il s'enfuit par la porte de gauche.
Tonnerre de Dieu, où est-il?
Qui ça?
Mais le duc! Mais empêchez-le de sortir, suivez-le, arrêtez-le, rattrapez-le avant qu'il ne rentre chez lui.